BD culte, exploration de planches iconiques du 9e art, une émission patrimoniale en partenariat avec la revue Papier Nickelé. On revient aujourd'hui sur Le Génie des Alpages, une série incontournable due à Fmur. Alors, qui était Fmur ? Eh bien, vous allez en entendre parler, puisque chez Dargo, le tome 5 de l'intégrale de cette série vient de paraître avec un 15e tome totalement inédit sous forme de crayonné. Voilà, on peut voyager de façon immobile dans ces alpages qu'on va évoquer, mais aussi redécouvrir, grâce à 2042, d'autres aspects de l'œuvre de Fmur, à savoir Naphtalène et Le Char de l'État, seul BD politique de cet auteur iconoclaste. Et enfin, pour ceux qui veulent voir les originaux, eh bien allez à Strasbourg, puisque dans le cadre des 13e rencontres de l'illustration, eh bien le musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration, a consacré jusqu'au mois d'août, eh bien, une exposition sur l'œuvre de Fmur grâce au fonds de dotation Fmur au futur. Voilà, c'est magnifique. Pour ceux qui en veulent plus, eh bien, on vous envoie vers le podcast de Papier Nickelé consacré à cette riche actualité. Dans Papier Nickelé, nous avions d'ailleurs consacré un article au tarot de Fmur qui était pré-publié dans le journal Pilote. Voilà, alors aujourd'hui on parle de la série Le Génie des Alpages, des moutons philosophes qui évoluent dans des montagnes à la fois bucoliques et abyssales, avec du non-sens, de l'absurde, et quelque chose qui infuse toute l'œuvre de Fmur et qui est centrale pour nous pour comprendre ce grand auteur. Alors, la publication se fait dans Pilote de 73 à 89. On a 14 albums jusqu'à 2007. Après le tome 8, Fmur s'arrête 4 ans et laisse ses héros dans un autocar qui part en l'air et qui rit de s'écraser. Et donc là, on a aujourd'hui le 15e tome qui n'est jamais paru et qui paraît donc dans l'intégrale. Et c'est intéressant de pouvoir se repencher sur le travail de Fmur. Alors Fmur était un pseudonyme inspiré du chat Mur des contes d'Hoffmann. Et Fmur lui a rajouté un R, ça fait donc 3 R. Fmur s'appelait Richard Pézaret. Il est né en 1946, il nous quitte en 2018 et il a fait l'école supérieure des arts appliqués, l'atelier du grand Raymond Poivet. Il a collaboré à la plupart des grandes revues, Pilote, Charlie à suivre, Le Canard Sauvage, Métal Hurlant, Anana, Fluide Glacial, et il a commencé par une parodie de contes qu'on appelle À rebours, les contes à rebours qui deviendront Au loup, réédités plusieurs fois et on attend à nouveau une réédition. Alors, il a percé vraiment dans Le Génie des Alpages, débuté en 73 dans le journal Pilote, et effectivement, après, il se singularise par un récit picaresque qui s'appelle Jeanne d'Arc dans un tout nouveau mensuel qui s'appelle À suivre, et c'est sa première histoire longue. Il va créer ensuite d'autres personnages féminins, Spirella, un hommage à Spirou, Naphtalène, et ces femmes sont des figures féminines fortes, complexes et souvent très anticonformistes. Fmur va travailler pour l'Association des bibliothécaires et pour la Fête de la Transhumance dans la ville de Die, dont il façonne l'identité graphique de 92 en 2002. Dans les années 80, il va se consacrer au dessin de presse, il va recevoir des commandes de La Croix, du Monde, de Libération, du Matin et de Télérama. Et exceptionnellement, animé par un désir de documenter le déroulement du conflit en Afghanistan et de la résistance face aux forces soviétiques, eh bien, il va, pour la première fois de sa carrière, publier une série dans la suite. On est en juin 85 jusqu'en octobre 86. Voilà, c'est très intéressant. C'est réédité actuellement chez 2042. Et ensuite, il va continuer de travailler sur des carnets, des illustrations, et à titre posthume, paraît un projet d'illustration 2000 meufs, une centaine de dessins petit format, nés d'observations faites dans les rues de Paris. Voilà. Donc, une partie de ce travail est visible au musée Tominger de Strasbourg. Et se dire que Fumur était un auteur complet, puisqu'en fait, il avait à cœur d'écrire aussi ses récits. Alors, ces lois du récit sont souvent subverties par lui. Alors, il y a peu d'études sur Fumur. Il en parle notamment dans la suivre, dans un numéro avec un poster. Il disait qu'il cultivait l'absurde et le loufoque par goût personnel. Moins le sens est évident, plus je suis content, dit-il. Ce qu'on va remarquer, c'est que les légendes, l'iconographie du Moyen-Âge et du Japon vont rester une référence constante dans l'œuvre de cet auteur qui va s'inspirer de tout cela sur le plan narratif. La BD, pour lui, c'est un collage. Il va mettre des images à la suite pour produire du sens et des gags. Il va inverser les valeurs, effectivement. Les brebis traditionnellement passives sont rebelles. Et les chutes des histoires ne sont pas si faciles et il y a très peu de chutes. On tourne des fois un peu en rond chez Fumur où les histoires sont laissées en suspens. Et c'est vrai que du coup, on a des personnages qui voyagent. Alors, c'est le cas de Naphtalène qui fait irruption dans le génie des alpages. Elle a sa propre série dans Pilote. Et elle paraît dans le recueil Tartine de Clous, et finalement dans une édition augmentée, puisqu'en fait on a trouvé une histoire longue qui a été, bien entendu, malheureusement inachevée, mais qui est visible. Donc, toute une série d'histoires, souvent improvisées, et le fruit d'observation de son environnement. Voilà, pas facile de choisir des planches pour montrer le génie de Fumur. On a quand même choisi de vous parler de 4 pages qui nous montrent un Fumur un peu métaphysicien, au moins, on va dire, philosophe de l'absurde à travers les théories de cosmogonie adaptées à son univers. Alors, c'est dans le tome 6, Io c'est l'écho, c'est aussi le titre de l'expo qui est aujourd'hui en cours au musée de Tominger. Alors, vous retrouverez ces planches, on les a pris dans l'intégrale 2, c'est les pages 146 à 149. On rappelle juste que chaque album de Fumur a été conçu comme un tout, avec de temps en temps des doubles pages. Par exemple, le tome 8, on a un jeu de loi qu'on a reproduit dans papier nickelé. On a à chaque fois des mises en page avec des débordements, du paratexte, des choses très intéressantes. Donc ces 14 albums, ils sont disponibles, on l'a dit, en 5 intégrales, avec dans la 5e le tome 15 inédit. Voilà, on vous propose d'écouter ces 4 planches et de revenir après sur leur sens et aussi commenter le style de narration graphique de Fumur. Dialogue à la tombée de la nuit dans les alpages entre le chien de troupeau et le bélier Romuald. Romuald. Alors comme ça, la société est comme un parapluie défectueux. Oui, oui. Qui est défectueux ? Le chien. Tu te crois protégé et tout d'un coup, crac, ça se referme sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Romuald, son parapluie vient de se refermer sur lui. Un peu, mais pas beaucoup quand même. Clic, Romuald rouvre son parapluie. Et là, boum, le parapluie se referme sur Romuald. Romuald, dans l'obscurité, il me vient à l'esprit une idée étrange. Et si le ciel était un grand parapluie défectueux ? Le chien. Bon, d'accord. Si le ciel est un parapluie, où sont les baleines ? Romuald. J'exige d'apparaître dans cette histoire la tête à l'endroit. Nos deux protagonistes rejoignent le berger Anataz. Anataz. Baleine. Quelle baleine ? Mais si enfin, c'est ça, parlons plutôt des canards. Hein ? Une brebis. Quelle baleine ? Avec Romuald, nous supposons que le ciel est un grand parapluie ouvert sur le monde. Silence. On parle ici de choses sérieuses, dit Romuald à son parapluie. Anataz. Ah oui, d'accord. Petit A. Alors, si le ciel est un parapluie, est-il défectueux ? Petit B, où sont les baleines ? La brebis. Bah, quelle baleine ? Romuald. Dit le manche qui tient le manche. Le parapluie qui parle. Quelle baleine ? Romuald, qu'est-ce que j'ai dit ? Les brebis. Il paraîtrait que là-haut, il y aurait des baleines. Deux brebis. Tu y crois, toi ? Et ça ? Ah ben oui, tiens. Et on voit des baleines qui nagent dans le ciel. Romuald. Oh, beuh ! Il est troué, ton parapluie cosmique. Le berger. Et là-haut, drôle de forme pour un trou. Il regarde la lune. Romuald. Bah, le berger. Tantôt un croissant, tantôt un rond, un demi-rond, quelque chose, quelquefois absent. Bizarre, non ? Une brebis. Oh, c'est l'œil d'une grande baleine. Quand elle dort, son œil se ferme, ou bien elle le cligne pour nous. Une brebis. Mais où serait l'autre œil ? Est-elle cyclope ? Une brebis. De l'autre côté de l'univers. L'autre œil, voilà. Hein, on la voit de profil, si, si. La grande baleine cosmique. Le chien. Diantre, hein, voici qui remet fâcheusement en cause ma théorie du grand bélier primordial. Les brebis. Ah, bah, il y a intérêt, hein, bien fait. Le chien. Bon, cependant, qui d'autre que le grand bélier primordial tiendrait le manche du grand parapluie cosmique ? Les brebis. Bah, et la baleine. Une baleine. Tenir un parapluie, laissez-moi rire. Ah, ah. Le chien toujours poursuit. Cette prétendue baleine cosmique ne peut être que sortie de l'imagination d'esprits infantiles primaires. Vous êtes superstitieux. Les brebis. Ah bon, bah, n'en parlons plus. Le chien. Ah ben si, Romuald, ah ben si. Les brebis, bah alors défends-toi. Bon, bon, bah, alors on n'en parle plus. Et là, le parapluie se met à parler. Parlons-en au contraire. Pourquoi, s'il existe un grand parapluie cosmique, a-t-il permis qu'à chaque fois que je déploie mes ailes, je me retrouve la tête à l'envers ? Romuald, c'est de la contemplation du ciel que naissent les grandes idées. Le berger, là il se met à pleuvoir et la pluie tombe sur le berger qui ouvre le parapluie qui était troué. Le berger, c'est trop dans ma parapluie, qui a fait ça ? Le chien, bah moi, hein, c'était un test. C'est ainsi qu'il pleut, le grand parapluie cosmique est troué. Voilà, alors, le commentaire, il est évident, c'est de voir que ce mur explose le gaufrier classique. Et on est sur, finalement, des figures animalières humanisées, avec des dialogues savoureux, vous les avez écoutés, une parodie de métaphysique, et à chaque fois des jeux de mots, hein, le mot baleine, l'animal cosmique, et puis aussi le parapluie. On a aussi des références latino-américaines, et ce qu'on appréciera, et c'est l'occasion de relire Fumur, c'est la qualité des couleurs qui ne sont pas du tout réalistes et qui vont amener cette histoire justement sur un sens méta. Là, il s'agit de la question de l'origine, et de l'origine du monde dans un monde réduit qui est le monde des alpages. Voilà, on va en parler plus avant puisque ça mérite un commentaire plus large, puisqu'on peut se poser la question... du Deus Ex Machina, on l'a bien dans ces planches commentées là, c'est cette idée de c'est qui le génie des alpages finalement ? Est-ce que c'est le chien sans nom ? Est-ce que c'est la brebis ? La brebis s'appelle Einstein, il y en a une à un moment donné, donc c'est le premier épisode dans Pilote, mais peut-être que c'est le lieu, c'est-à-dire que les alpages, un paysage vivant, hein. On retrouve chez les Romains l'idée d'un esprit protecteur des lieux. Alors, est-ce que c'est ça que Fmur veut nous dire ? On peut se poser la question. On a effectivement cette expansion des pages. Le paysage bouge, il est souvent acteur. Et on a, comme dans les extraits qu'on vient de lire, une cosmogonie assez complexe. Hein. Donc, cette théorie taoïste du grand bélier qui est contredite après par la théorie de la grande baleine cosmique. Donc le paysage, il est souvent physique. Par exemple, dans le tome 5, dans l'épisode 89, on voit le carton-pâte derrière les montagnes. Et puis aussi psychique. Alors, le génie, c'est aussi le génie français, peut-être, des références à Rabelais, l'art du langage, qui est présent aussi dans les dialogues, et puis l'art du bricolage. Hein. L'art du bricolage, ce génie du bricolage, effectivement, le chien qui fait des farces à trappe, dans le tome 7, l'épisode 120, et puis toutes ces brebis qui, loin d'être soumises, sont rebelles. Voilà, donc il y a une pluralité de sens. En tout cas, on a un monde clos. Un monde clos, c'est peut-être aussi un peu le pays de Coconino de Herriman dans Crazy Cat. Un décor singulier où tout bouge autour de ce décor des alpages. Alors, c'est un décor pastoral, un monde à l'envers assez merveilleux. Donc, assez illusoire, on a vu que ça se démonte, ça se bricole. Il y a des traversées d'objets volants, un bus qui vole dans le tome 8 et qui va rester suspendu. Il y a des actions répétées avec des gradations dans l'absurde. Ça fonctionne beaucoup sur des répétitions, des brebis qui font des blagues. Et puis cette langue inventive à plusieurs niveaux de sens. Voilà. Alors, les personnages de cette histoire, eh bien, on a un berger qui s'appelle Anatas Perceval. Il est plutôt neurasthénique, lui. Et il va succéder, dès l'épisode 63, au vieux berger, donc, qui lui était un peu fatigué de la truculence de toutes ces brebis. Une bergère amie, et peut-être amante, mais ça reste un peu hors champ, Mariette, qui est la patronne de la buvette des Cimes. Alors le chien, lui, il n'a pas de nom, mais en tout cas, il est assez bricoleur et philosophe. C'est presque le héros, mais pas uniquement. On a aussi le bélier, Romuald, qui est irascible et borné, et il refuse de jouer son rôle de reproducteur, notamment. On a Naphtalène qui apparaît et qui va s'émanciper en avril 75. Alors, c'est presque une version féminine de Gaston Lagaffe, voilà. Et puis, toute une série de personnages seconds, des sphinx, des anges, un moine bouddhiste, un copiste, un maire, un ours, un aviateur, voilà. Et des héros qui apparaissent comme ça, Saint-Ex, Akab, Rabelais, voilà. Donc, quelque chose d'assez surréaliste. Et puis, alors, dire un mot des brebis quand même, puisque quand vous allez lire les 15 tomes, vous allez entendre plus de 200 noms de brebis dans la série. Dans chaque tome, on en a plusieurs qui apparaissent. Alors, sauf dans le tome 13, étonnant, qui s'appelle Cheptel Moody. Par exemple, dans le tome 14, apparaissent Calculette, Chikungunyette, Yang, il y a aussi Ying, Crochette. Alors, souvent, c'est des jeux de mots hein, intéressants. Côtelette, Mobilette, Infarctule, et puis des références culturettes, Chopilette d'après Chopin, Freudette d'après Freud, Gossinaël d'après Goscinny. Voilà, donc Fumur s'amuse avec le langage et ses brebis nous amusent. Alors, les influences graphiques, elles sont variées. En tout cas, Fumur était très jeune lecteur de Spirou et de Tintin. Il aime beaucoup la ligne claire d'Hergé et le trait rondouillard de Pim Pam Poum et aussi l'ironie du grand dessinateur et illustrateur de presse Chaval. Alors, les références, elles sont multiples dans l'univers de Fumur, qui était quelqu'un d'une grande culture. Ça peut aller de Herriman et de Crazy Cat, avec cette histoire de monde clos, le monde du concombre masqué de Mandrika, aussi Jean-Claude Forest avec son copyright, l'univers surréaliste de Fred, Philémon, et puis aussi le Tardy. Hein. On voit un parallèle entre peut-être Naphtalène et Adèle Blanc-Sec avec leur résidence au Jardin des Plantes. Il y a forcément de la pataphysique dans l'histoire de Naphtalène avec cette spirale qui évoque peut-être Albert Jarry, spirale qu'elle a sur son pull. Il y a aussi de la poésie de Prévert avec une tragique absurde de Boris Vian. Sur le plan cinéma, on pourrait citer le non-sens des Monty Python, des références au cinéma japonais de Ozu et de Kurosawa. Alors ça serait surtout dans sa BD inédite sur le Japon, qui est malheureusement pas parue. Il y a 4-5 planches qu'on peut voir dans l'exposition à Strasbourg. Et alors, plus sur le cinéma français, on a peut-être cette histoire du cinéma d'Alain Resnais, où Resnais, dans Providence par exemple, va disséquer un personnage de façon à ce que ce personnage nous apparaisse beaucoup plus complexe. C'est un peu ce que va faire Fumur avec le personnage de Jeanne d'Arc et le personnage d'Attila. On n'est pas dans le manichéisme, on est dans la complexité de l'être, et la complexité souvent qui fait rire. Voilà. Et bien entendu, le sous-texte général du monde de Fumur, c'est l'univers des contes, avec bien entendu Alice, le petit chaperon rouge, on a parlé au début des contes à rebours, du loup, et puis cette histoire de littérature japonaise qui va le poursuivre avec la lecture de paraboles zen et d'une littérature qui s'appelle le konjaku. C'est des histoires un peu étonnantes en queue de poisson, où justement il n'y a pas de chute classique. Voilà. Alors, le style de Fumure, il est assez étonnant. On va dire que c'est un mélange d'une école de Marcinelle et d'école de Linclair, une espèce d'épure. Son dessin à la main, toujours, il n'a jamais eu recours au numérique. Il le fait souvent par inspiration, par observation du paysage. À savoir que Fumure, il le dit lui-même dans la suivre, il était myope et il observait les choses autour de lui par leur couleur, par leur masse et pas par leur fini. Donc on avait effectivement cette idée de travail d'impressionnisme un petit peu, et puis bien au niveau de la technique, et bien il mélangeait l'encre, les feutres, le crayon, la gouache, et le sentiment des personnages était souvent donné par leur posture. Voilà. Il n'y a pas souvent de perspective chez Fumure. Enfin, il y a différents, peut-être des histoires, différents plans, mais voilà, c'est assez étonnant, et puis ça se relie avec plaisir, effectivement. Sur les thématiques qui traversent le génie des alpages, eh bien, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, l'écologie, hein, l'ethnologie du pastoralisme, l'idée du rapport de l'homme et l'animal, qui est plus complexe que ce qu'on peut penser, l'idée même d'une intelligence animale, et puis aussi une espèce de métaphysique qui arrive avec une métaphysique à la Prévert, avec le surnaturel qui apparaît toujours par moments. Mais cette histoire de cohérence, elle n'est pas évidente, hein, entre les épisodes. Et Fumure aime bien réintroduire des éléments qui amènent le lecteur à pouvoir revenir en arrière, ce qu'il ne peut pas faire quand il est au cinéma. Hein. C'est l'intérêt de la bande dessinée. On feuillette et on est maître de l'ordre de lecture. Et avec les alpages, on a souvent envie d'aller revoir quelque chose, un détail qui nous a échappé et qui donne sens finalement a posteriori. Voilà. Alors justement, la postérité de Fumure, eh bien, elle est quand même étonnante. Il y a un futur, hein, c'est le nom du fonds de Dacian Fumure, qui a permis de pouvoir exploiter toute cette matière. Donc il y a eu une donation qui a été faite pour payer les droits d'héritage. Fumure n'avait pas de descendants, et du coup bien la Bibliothèque Nationale de France a récupéré une partie des planches en paiement de l'héritage, et du coup a fait des dons à Strasbourg et à Angoulême. Il y aura bien sûr quelque chose prochainement à Angoulême aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les alpages ont tout de suite été reconnus. Hein. C'est la meilleure publication humoristique dès le tome 3 au Festival d'Angoulême en 78. Les contes à rebours, la première création, ont régulièrement été adaptés au théâtre. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'entretiens et d'études sur Fumure. Là, il y a quelque chose, il va y avoir une journée d'études à Strasbourg. Alors, pour ceux qui collectionnent les revues, peut-être trouver les cahiers de la BD 60 de 84, où il y a un entretien. Le petit poster dans le à suivre numéro 16 de 1979 est très intéressant, parce que Fumure, il parle de philosophie. Et bien, il y a eu le Fumure Stival à Champs-Élysées dans les Hautes-Alpes, où pour une fois, on a eu un sentier de randonnée illustré avec les personnages de Fumure. Voilà, alors pour terminer, eh bien, on va se poser la question du sens de cette série, pourquoi elle reste culte dans nos mémoires, et puis on l'a relue, et on peut dire que finalement, le génie des alpages, ça serait peut-être le théâtre de nos vies rêvées. On peut voir Fumure peut-être comme un ermite moderne, en quête de sens, et aussi du non-sens de la vie. Hein, suite aux vacances qu'il passe aussi dans les Alpes en 72, il arrête sa série Contes à rebours et cherche une nouvelle inspiration. Et là, le paysage lui parle et le génie des alpages arrive. Alors, on peut dire, comme Jean-Claude Menu dans la préface du tome 1 de l'intégrale, qu'on est presque dans l'antisérie, et dans l'antisérie assez hermétique. L'humour va naître, on l'a évoqué, de situations graphiques. On est dans un théâtre de la cruauté peut-être, mais aussi de la poésie. On est dans une espèce de dualité entre une réalité écologique, une défense de la nature, et puis l'idée que ce monde est une illusion, avec tous ces cartons-pattes qui apparaissent. Peut-être aussi une philosophie taoïste sur la question du non-agir. Pas comme Kielmann, lui, dans la préface du tome 2 de l'intégrale, parle d'un paradis transitoire. Voilà, le génie de Fmur, ça serait peut-être celui de l'art de la fuite avant la boucherie finale qui nous attend. Voilà, le génie des alpages, il est important de le relire parce que Fmur nous propose quelque part un nouvel art de vivre.